Le 7-10 Alsace, en replay et podcast
sur fleurfm.com
ou l'appli Fleur FM.
C'est Fleur FM, le 7-10 Alsace. Nous sommes jeudi, c'est le jour où on commence tout doucement à faire des plans sur le week-end.
Ah oui.
Alors qu'on n'a même pas encore choisi ce qu'on allait manger ce soir, tu vois.
Non.
Tu vois. Parfois, on se projette très très loin pour éviter de regarder trop près.
C'est ça, hein.
Voilà. Trouvez-moi le menu de ce soir, bordel.
Allez.
Matin au petit-déj, joue dans la voiture. Avec Mister Deborah et Romano. Les infos, des jeux, des hits et des cadeaux. On se réveille sur Fleur FM. C'est le 7-10 Alsace.
Le chiffre devinette
sur Fleur FM.
J'aime bien ce chiffre à quelques jours de la Saint-Valentin. Ça peut foutre au bordel, au cas où. 43% des gens en couple seraient prêts à le faire pour 1 million d'euros. 43%, ça me fait marrer parce que c'est quasiment une personne sur deux.
Oui, c'est beaucoup.
Donc une personne sur deux, bah, c'est quasiment tout. Il y a une personne qui est concernée dans les couples. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Ouais.
Voilà, ça me fait marrer. Prêt à faire quoi pour 1 million d'euros ? Prêt à faire beaucoup de choses. Là, c'est pas très joli quand même. Hein. Alison à Mulhouse, elle dit tromper son mec.
Mais on pense tous forcément à ça parce qu'il y a un film là-dessus avec Demi Moore. Ça s'appelle Proposition indécente.
Ah.
Et
ah.
C'est un film dont l'histoire est on propose à une femme de tromper son mari pour 1 million.
Ah ouais.
Ouais, mais ouais. Là, ça devient pas un truc un peu pas légal.
Je crois que ça part un peu en vrille, non ?
Bah, de toute façon, les rapports tarifés, ouais, c'est pas légal.
C'est ça,
hein, à la
donc,
base.
Ah oui, c'est
donc,
ça.
Bon, il y a pas des pays où c'est un peu.
Il okay, y a des pays.
Mais chez nous, chez nous, ça l'est pas.
Non, chez nous, non, effectivement.
Non.
Bon, en tous les cas, c'est pas la réponse attendue. Damien, il est à Ingersheim, il dit faire des compliments à sa belle-mère pour 1 million d'euros.
J'espère qu'on en ça, fait gratuitement.
Ça, je sais pas comment ça se passe avec ta belle-mère, Damien, mais 1 million d'euros.
Normalement, Damien, la belle-mère, c'est pas
il est pas fan de la belle-mère. Bon, les gars, je peux comprendre que ouais, de temps en temps, les rapports soient pas fous, mais bon, attendre 1 million pour faire les compliments, c'est quand même une dinguerie.
Beaucoup.
Attends, il y a bien un plat qu'elle a réussi, la belle-mère, le dimanche, Damien. non, c'est pas ça, Déborah Romano.
Bah, le quitter peut-être. Rompre.
Le quitter, rompre, larguer son
non.
mec pour 1 million d'euros. Si.
Oh non, ça c'est violent.
Oh, ouais,
Amandine,
ah, non.
Amandine, elle est à Wittenheim, elle avait proposé le larguer.
Pour 1 million.
1 million d'euros, tu largues ton mec ou ta nana. C'est une folie quand
combien
même.
De pourcents
43%. C'est beaucoup quand même.
Vous croyez pas en l'amour ou quoi?
Bah non, bah là. Je crois plus en l'argent, visiblement, les gens.
Vraiment.
Mon dieu.
Oh non. Ouais, c'est énorme, la proportion est dingue.
C'est une... Et par contre, j'ai pas un chiffre, mais j'avais entendu que la proportion des couples qui gagnaient au loto bah, avait tendance à se séparer avec les années.
C'est normal.
J'entendais un truc comme ça.
Je
alors,
pense.
Ils se séparaient pas. Mais...
Je pense que tu pètes un câble.
Tu penses ?
Bonjour à tous.
Ouais, bon... Ah, Jean-Pierre, expert.
C'est Jean-Pierre Foucault. Effectivement, les études l'ont prouvé. L'argent au loto ou à l'euro-million, évidemment. Hein, cagnotte qui continue d'augmenter. Demain d'ailleurs, 13 millions d'euros. Exceptionnel.
D'accord.
Loto exceptionnel. 13 millions d'euros à gagner sur TF1, évidemment.
Okay,
20h10. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les couples se séparent.
C'est vrai. Alors déjà, c'est pas du tout 20h10. Hein.
Non.
Parce que 20h10, c'est le JT.
On fait le tirage au sort à 20h10, vous savez que c'est enregistré.
Ah oui, c'est à 20h28.
Mais bon.
En tout cas, moi j'ai rendez-vous à 20h10 à chaque fois. Pour le maquillage.
J'ai bien compris.
Tout ça, tout ça.
Bon, en tous les cas, ouais, ils ont tendance effectivement à se séparer. Puis un autre truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, clairement, qui disent ouais, j'aimerais bien me séparer, mais je reste. Pour la baraque, je reste aussi pour les raisons financières.
Ça, c'est triste aussi.
C'est pas les bonnes raisons,
non,
mais c'est triste.
Pour les enfants aussi.
Et c'est une réalité.
Il y en a plein qui restent pour les enfants.
Ouais, ça, bon. Ben non, mais bien sûr.
Le but du jeu dans la vie,
enfants.
C'est d'être heureux avant tout.
Mais,
exactement.
Oh, c'est beau, ça.
Eh ben, soyez heureux, là, quelques jours en plus de la Saint-Valentin. J'espère que ce chiffre n'a pas foutu la merde. Parce que là, normalement, là, si tout se passe bien, t'as les gens qui sont en couple qui prennent le petit déj. Qui disent, pour un million, tu me lagues ou pas, tu vois. Et là, c'est en train de se disputer. Je sens, là. Je sens, attention.
Ben, souvent, t'auras. Non.
Oui,
sûr
oui.
Que non.
Aujourd'hui en Alsace.
Oui, à partir d'aujourd'hui, un nouveau spectacle à l'Entrepôt de Mulhouse. Déborah.
Avec Kostia qui sera sur scène à partir de ce soir et jusqu'à samedi inclus, samedi 14 février. Donc si vous voulez l'offrir en cadeau de Saint-Valentin, c'est le bon plan. C'est lui qui le dit hein, sur les réseaux parce qu'il a posté une petite vidéo pour promouvoir justement sa venue à Mulhouse. Ah. Et il se dit très fier d'être devenu un cadeau de Saint-Valentin. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo.
C'est
donc
marrant.
Vous pouvez aller voir ce show qui s'appelle Entre deux, qui est présenté comme le coup de cœur de l'Entrepôt. Apparemment, c'est canon et c'est un spectacle dans lequel les hommes vont se dire « Ah, mais alors là, c'est moi !» et les femmes vont leur dire « Ah, tu vois, Vous voyez un petit peu le genre. Voilà. Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi dans ce spectacle à découvrir. Donc ce soir, demain et samedi, sur la scène de l'Entrepôt de Mulhouse.
Et on file des places sur le site de la radio. Et puis toujours de l'humour avec Paul Mirabel à Strasbourg.
Oui, ah, Paul Mirabel qui fait le carton, un carton partout. Il passe, hein, il fait le plein chaque fois. Et il revient en Alsace parce qu'il est déjà venu par chez nous. Il était notamment à Colmar. Cette fois, c'est au Zénith de Strasbourg qu'il sera présent avec son spectacle Par amour. Un sujet qu'il s'approprie à sa façon. Et on sait qu'il a un style très personnel, Paul Mirabel. Il réussit en tout cas à nous surprendre. Il propose une création drôle et sensible, Par amour de Paul Mirabel. C'est donc ce soir sur la scène du Zénith de Strasbourg à 20h.
Et puis journée de sensibilisation au handicap. C'est fou quand même que je bafouille sur ce...
En tout cas, c'est important d'en parler. C'est le centre de réadaptation de Mulhouse qui vous invite à participer aujourd'hui à une journée de sensibilisation au handicap. Cet événement vise à informer et à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y aura des rencontres, des échanges, des découvertes, événements gratuits et accessibles à tous. C'est aujourd'hui de 10 à 18h à l'auditorium donc du centre de réadaptation de Mulhouse.
Très bien, les bons plans, on vous les met sur le site de la radio. Donc connectez-vous, florefm.com ou l'application florefm.
Réécoutez le 7-10 Alsace
en replay ou podcast.
On est passé à côté d'une info de ouf là concernant les Alsaciens.
Non mais c'est fou ça.
Romano avait au grain, petite séance de rattrapage.
Cocorico, hein.
Oui,
Cocorico. On a gagné, hein. Deux jumeaux alsaciens qui sont devenus champions du monde de pâtisserie.
Ah mais c'est énorme.
En junior.
Ça.
C'est pas ça la trappe, cette histoire. C'est fou, hein.
C'est fou. Je me demande si on n'avait pas déjà eu un des jumeaux il y a quelques temps au téléphone.
Eh ben c'est Mathis et Samuel Einstedt.
On avait eu Samuel, je crois.
Ils viennent d'Idi.
Ah ouais.
Ça dit rien, les bras.
Si, ça me parle. Ouais, oui.
Ils viennent de Dimersheim.
Ouais, on les avait eu.
Bon, ouais. Et ben ça y est, il est rentré dans l'histoire avec son frère, hein, avec son frère Mathis. Hein.
Trop bien.
Le 20 janvier dernier, ils sont partis à Rimini, en Italie, la ville des Alsaciens.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toujours beaucoup d'Alsaciens en tourisme là-bas.
Ils ont un domicile, déjà, les gars.
Bah, déjà, il y a plus d'Alsaciens que d'Italiens là-bas.
Je suis désolé, Baptiste Samuel, bon, ils ont joué à domicile. Voilà. C'était le SIGEP 2026. C'est vraiment le championnat du monde de pâtisserie pour les juniors. Et en seulement 10 heures, ils ont dû enchaîner les épreuves. Un gâteau vegan au café, un dessert street food rendant hommage à la France, un produit au levain imaginé pour le petit-déj et surtout une pièce artistique en chocolat qui faisait 1,20 m de haut.
Ah ouais, c'est
énorme.
Bravo.
Ouais, énorme.
Ils ont gagné.
Bravo Samuel, bravo Mathis. Nous, on veut bien goûter hein, maintenant.
Bah, ouf. En plus, vous êtes pas loin, Dimersheim,
les gars.
Au pire, si vous voulez pas passer, moi je passe. Hein.
Ouais, nous on peut.
Moi, c'est sur mon passage. Hein.
On peut faire le déplacement sur la route.
Moi, je fais un petit détour. Là. Pas non plus, je suis capable. Hein. La Corée du Sud et la Chine qui complètent le podium, mais c'est l'Alsace qui a gagné. Et vous les connaissez peut-être parce qu'ils ont fait le meilleur pâtissier, les professionnels sur M6.
Exactement. Ah, oui. Et ben, je crois que c'est à cette occasion qu'on les avait eu au téléphone. C'était un délire comme ça, c'est il y a quelques années en arrière.
Bah, bravo à eux. Donc, pour
bravo.
Le 20 janvier, les gars.
Voilà.
On est très fiers.
Mais on parle de vous quand même. Maintenant, vous pouvez quand même ramener à bouffer.
Voilà, vous pouvez. Ou on peut faire le déplacement encore une fois.
Comme vous voulez.
Ça va. On n'est pas du tout gourmand, nous. Absolument pas.
Le Débo Time.
Le Débo Time.
Sur Fleur FM.
On va parler de l'Assemblée nationale. À quoi sert un débat sans vote ? À l'Assemblée nationale, il faut que tu nous expliques un petit peu, Déborah.
Mais bien sûr, parce que les députés, à la base, ils sont là pour voter.
Bah oui.
Ils sont là pour voter des lois, des textes, et avant cela, débattre. Mais parfois, c'est vrai, il y a des débats sans aucun vote. C'était le cas hier, avec la fameuse pétition concernant la loi Duplomb, une loi qui voulait réintroduire des pesticides en France. Cette pétition avait été signée par 2 millions de Français l'année dernière. Et hier, les députés se sont réunis pour débattre sur cette pétition, sur la loi Duplomb, mais sans voter, sans jamais s'exprimer. Et c'est l'occasion de s'interroger en vrai à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'il est prévu dans les textes que l'Assemblée puisse se réunir et ne jamais voter sur un sujet ? En fait, il y a plusieurs raisons. Les premières, c'est de faire preuve de transparence et de prendre des sujets qui intéressent les Français, qui sont importants, et de montrer que les députés s'y intéressent. Chaque groupe va pouvoir s'exprimer, exposer sa position, et le but c'est aussi de rajouter une pression politique. Ce sont parfois des sujets où il n'y a pas besoin de voter là tout de suite, mais c'est montrer que les débats sont là, montrer que le sujet n'est pas oublié,
qu'on
continue à réfléchir, qu'on peut ensemble préparer un futur projet de loi en testant l'opinion de l'Assemblée nationale. Voilà, en clair, ils se réunissent et ils papotent. Voilà, ça papote, ça papote, ça papote.
Moi j'appelle ça de l'enfume, hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais, un petit peu quand même, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité prise au final sur les sujets.
T'as 2 millions de Français qui signent à Paplard et ils se disent bon, bah vu qu'ils ont signé, on va faire semblant, les gars, on va les tuer. Comme ça, on fait croire qu'on parle un peu du dos, on s'en fout.
Ah,
tu vois,
café.
Bon, après, il y a quand même un enjeu. C'est vrai que ça permet quand même de remettre des sujets au premier plan d'actualité. C'était le cas avec la loi du plomb parce qu'on n'en parlait plus vraiment depuis l'année dernière. Et pourtant, il va falloir qu'elle revienne à l'ordre du jour. Et donc, le débat, même s'il n'y a pas eu de vote hier, était important en cela. Je me suis posé la question aussi du coût de ces débats sans vote.
Oui.
Parce que bah, forcément, ça coûte de les réunir, ces députés. Ils travaillent. Donc, voilà. Bah, sachez qu'il n'y a pas de surcoût particulier. C'est le coût de fonctionnement normal de l'Assemblée. Mais une séance est quand même estimée à 2,3 millions d'euros.
Ah oui.
Ah ouais.
Ouais, une séance.
Pour alors papoter.
Ça comprend tout, tout le fonctionnement de l'Assemblée. Les salaires qui sont donnés aux députés, aux collaborateurs, etc. Mais c'est vrai qu'une séance est estimée aujourd'hui à 2,3 millions d'euros. Dans sa globalité, je précise.
Il y en a beaucoup des séances.
Il y a beaucoup de séances. L'Assemblée nationale coûte assez cher à l'État français. Je te l'annonce.
On peut peut-être couper, diviser par deux le nombre de séances et faire des trucs un peu plus intelligents, arrêter de gueuler et d'être dans une cour de récré.
C'est ça. Et puis on pourrait aussi, effectivement, et puis on pourrait diviser par deux aussi le nombre de députés, puisque de toute façon, ils ne sont pas tous là. Parce que là, on parle de débat sans vote. Il y a des fois, il y a des votes sans députés. Les mecs sont pas là.
Il y a des textes qui sont passés en compte de députés présents sont pas là pour l'opposition. C'est
parce
vrai.
Parce que, tu sais, ils avaient.
J'ai pas d'œil.
Tu sais, voilà.
Non, je peux pas vous laisser dire ça. Ils sont quand même sur le terrain. Ce sont des élus locaux à la base, quand même.
Ouais. On en connaît aussi en Alsace. Hein. Je vais pas commencer à citer des noms, mais je peux dire que les gars, ils sont là. À part bouffer de la tarte flambée. Bon, voilà.
Écoutez le 7-10 Alsace en replay ou podcast.
Retour ce matin. De quelle école on joue ce matin? De quelle école? C'est parce qu'il y a toujours deux écoles pour tous les thèmes. Et donc, on va dire avec Déborah, avec Romano, de quelle école on est, en fonction du thème.
Ça, on s'en est rendu compte à chaque fois, on dit il y a deux écoles.
Ah, il y a deux écoles.
Ah, bah pour ça, il y a deux écoles.
Ah, bah évidemment.
Et bah, j'ai une liste de catégories. Catégorie d'école. Donc, plutôt à Mulhouse, lycée Lavoisier. Lycée Lavoisier ou lycée Schweizer? Alors,
il y a deux écoles.
Il y a deux écoles. Liste de catégories de personnes, vous me dites chacun votre tour laquelle vous êtes.
D'accord.
Par exemple, est-ce que vous êtes de ceux qui vont se cacher pour prendre un chewing-gum ou qui vont proposer à tout le monde quand ils en ont?
Ah,
oh non,
c'est
moi
vrai.
Je propose quand j'en ai.
C'est vrai que moi, ça met une tanasse de proposer à tout le monde.
Ah ouais.
De faire le tour. En vrai, je suis généreux, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que t'en prends un et là, tu as quatre personnes autour de toi. Les gars, vous voulez des chewing-gums?
Non.
Non, ça me met une tanasse. Je me planque.
Tu sais ce que c'est le pire?
Non.
C'est quand tu prends un chewing-gum. T'en as un qui vient et qui te dit: gars, je peux te prendre un chewing-gum?
Ouais.
T'es pas enfin, tu vas dire oui.
Non, mais
c'est sympa. Par contre, quand derrière, t'en as cinq qui arrivent. Parce que tu as donné un, tu peux pas dire non aux autres.
Ah, c'est ça.
Et bah, moi, je le dis. Je fais, les gars, par contre, au bout d'un moment, j'en aurais plus.
Non, mais je peux comprendre, je vois exactement la tanasse. Et ça veut pas dire qu'on est égoïste, pas non. Du tout, mais flemme. Voilà.
Flemme, oui, bien sûr. C'est bien résumé, tiens.
Flemme de ouf. Vous êtes de ceux qui prennent des bonbons au cinéma ou des pop-corn?
Ah, des pop-corn. Je suis plutôt pop-corn.
Écoute, je suis plutôt pop-corn aussi.
Mais
en vrai, les M&M's, ils passent bien.
Ouais.
Les M&M's, ils passent bien. Après, moi, je suis pop-corn baf. Moi, j'aime bien. Quand il y a des baf, je suis baf. Je suis baf. Vous savez, c'est ceux qui sont ultra sucrés.
Oui.
Ceux que tu traînes pendant 4 jours dans les dans la bouche encore.
Délice.
Voilà,
tu prends ça, t'as tout d'insuline, il part.
Voilà.
Moi, je suis plus. Alors moi, j'ai un truc. Quand je vais au cinéma, je mange des Maltesers.
C'est ça.
Tu sais, j'ai mon truc.
Cinéma, c'est Maltesers. Ouais.
J'en mange jamais. Mais Cinoche, c'est Maltesers.
Et ça passe très bien les Maltesers aussi.
Le problème, c'est que tu les as terminés avant le début du film. Quoi.
Oh,
pareil.
Il faut qu'on arrête de parler de bouffe. Oui. Franchement, dans cette émission, on continue, nouveau thème.
Vous êtes de ceux qui se lèvent dès le premier réveil ou ceux qui traînent 30 minutes dans leur lit en mettant 10 réveils?
Non, je me suis autorisé, si je puis dire, deux snooze.
Ah ouais.
Ouais. J'en ai deux. Après, je ne les fais pas systématiquement, mais voilà. Par contre, ma sœur, si elle nous écoute, elle sait que quand j'étais au lycée, je traînais, mais alors je traînais. Mais...
Ah ouais.
Je
ouais.
pouvais traîner même jusqu'après le début des cours, même à l'époque.
Après,
ouais.
Il y avait de l'abus quand même. Hein.
Oui.
Nous, le délire, c'est que vu qu'on fait une matinée à la radio, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on se lève.
Oui.
Tu vois, t'as certains qui peuvent commencer un peu plus tard et du coup, tu snooze.
Mais en fait, moi, je vois l'été quand on n'a pas l'émission. Franchement, je peux traîner 1000 ans. C'est-à-dire qu'on travaille quand même, mais des fois je dis ouais, je serai là vers 10h, ouais, je suis là vers 11h15. Hein. Ah ouais. Bah, la cool. Hein,
Manu, c'est parce que j'ai déjà commencé à bosser au lit. tellement la flemme que j'ai pris mon ordi, je me dis tu sais quoi, je vais me poser un peu dans le lit.
Déborah, toi, tu te lèves direct?
Moi, je me lève direct, ouais. Mais moi, c'est tous les matins, 4h, mon réveil. Donc, c'est vrai que vacances ou pas, mon mari, il aime pas trop que je décale. Hein. Il préfère que je me lève direct, comme ça, lui, il peut se rendormir.
Ah, lui, c'est le deuxième réveil, là.
C'est ça. Ouais. C'est le coup de coude.
Il faut y aller maintenant. Ouais, c'est
ouais,
le
mais on s'est discipliné, finalement. Tu vois, moi, à l'époque, j'étais pareil. Moi, mon réveil, c'était ma mère à l'époque. Et elle me réveillait alors que j'étais assis sur le lit en train de mettre une chaussette. Romain, dépêche-toi.
C'est énorme. Heureusement qu'elles étaient là, nos mamans.
Ah oui, c'est clair.
La Minute People sur Fleur FM.
Et là, on est content.
Oui.
On va parler du poteau, du frérot, du collègue, même, j'ai envie de dire, de Ritza.
Ah.
Qui vient à tous les Fleur FM Live tout simplement parce qu'on l'adore et qu'il a que des tubes. Ritza qui annonce une grande nouvelle, Déborah.
Oui, il a dévoilé tout ça avec une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Et le chanteur annonce, non pas un album, non pas une tournée, même si on adorait, mais il annonce qu'il s'apprête à devenir papa pour la toute première fois.
Papa ?
Oui, il va être papa, une naissance qui est prévue pour le printemps prochain. Il a pris la parole parce que cette belle nouvelle l'oblige en fait à reporter certaines dates de sa tournée vers un autour. Alors pour l'instant, on ne sait pas si la date prévue à Mulhouse, au Noumatrouf, le 20 mars est concerné ou pas. 20 mars, c'est pile le début du printemps. Notre ami Romano l'a vérifié pour moi tout à l'heure. Donc, si c'est le cas, la date sera reprogrammée et on vous tient évidemment informé dès qu'on a la nouvelle.
Première nouvelle. Le mec a une nana.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais attends, mais c'est fou.
C'est vrai. Bah, il dit pas trop, il explose pas trop.
Il est discret sur sa vie privée. Il a le droit, c'est très bien.
On fait quand même partie de sa vie privée. Je suis désolé, on le voit deux fois par an. Bon.
En tout cas, félicitations à lui et à la future maman.
Évidemment, la petite famille à qui on souhaite le plein de bonheur. Et puis Bad Bunny a vidé son compte Instagram. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Bad Bunny là ?
Aucune idée. Personne ne sait pourquoi, mais le compte Instagram de Bad Bunny est entièrement vide. Plus aucune publication, plus aucune photo. C'est un compte qui est suivi quand même par 53,2 millions d'abonnés. Il y a juste encore son nom, le lien pour écouter son dernier album, Debitirat Mas Fotos. C'est le titre de cet album. Ouais. En revanche,
LV2 espagnol, hein, pour les voir. C'est un LV2 espagnol, non?
C'était LV3 espagnol.
Ah, c'était LV3. Ah, t'as fait quand même espagnol?
J'ai fait LV3 espagnol, ouais.
Bon.
Mais LV3. Hein.
Il
n'y avait pas de miracle, visiblement. En tout cas, le compte TikTok de Bad Bunny est lui toujours actif. Donc, si vous voulez le suivre, allez plutôt sur TikTok. Et juste pour info, ce petit chiffre au passage, le concert qu'il a donné dimanche au Super Bowl a battu sur YouTube le record de visionnage en 24 heures avec plus de 48 millions.
Énorme show.
Par contre, il n'a pas battu le record à la télé.
Bah forcément, enfin, Donald Trump a fait toute une campagne contre lui et il y a eu des dissidents.
C'est vrai, quand t'as le président du pays en question qui fait une campagne anti-toi.
C'est mal barré. Hein.
Ouais, ça aide pas, ça aide pas de ouf. Malgré tout, ça cartonne.
Ça cartonne.
Et le show était énorme pour Bad Bunny, donc qui n'est plus présent sur Instagram.
Réécoutez le 7-10 Alsace en replay ou podcast.
Je vous emmène en Belgique une fois.
Ah,
alors
ça fait longtemps, ça, dis donc.
En Belgique, alors, une fois, dis donc. Faut vous parler ces deux hommes une fois.
Alors.
Vous allez vraiment la faire comme ça jusqu'au bout?
Deux hommes qui ont été condamnés. Là, il y a deux gars qui ont été condamnés, c'est des Géorgiens. Ils ont été arrêtés après avoir volé, écoutez bien, 301 tablettes de chocolat dans un Aldi en Belgique.
301.
Pas mal quand même. Hein.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec plus de 300 tablettes?
Écoute, c'était pas une envie soudaine, c'était vraiment un plan organisé, un plan bien bossé, tu vois. Alors, il y a les policiers, donc ils ont trouvé dans le coffre 60 kilos de chocolat.
Waouh.
Valeur environ 1000 euros, un petit peu moins. Côte d'Or, Milka. Kinder, petit assortiment, d'un calendrier de l'avant un peu XXL.
Ça fait plaisir, ouais.
Et donc, le jour du jugement, au palais de justice, leur avocat, il a trouvé la défense là, pour ces deux Géorgiens.
Il a déguisé en lapin.
Deux pistes. Non.
Mais n'importe quoi.
La première piste, il fait, votre honneur, l'un des deux serait accro au chocolat.
Pas mal.
Pour justifier le truc. Deuxième piste, votre honneur, ok, ils ont volé. Mais le projet était de distribuer des chocolats aux enfants dans leur pays, en Géorgie.
Ouais.
Okay, ouais.
Ça n'a pas marché.
Tu m'étonnes.
Ça n'a pas marché. Ils ont
tellement peu crédible.
Ils ont pris 15 mois de prison avec sursis et puis une grosse amende.
Alors que le lapin, une fois, je suis lièvre de Pâques. Tu vois, ils n'ont pas fait de prison.
Exactement.
Un petit tour en psychiatrie, mais c'est tout.
Votre honneur, ils bossent pour le lapin de Pâques.
C'est vrai.
Bon, je suis pas sûr que son honneur, il serait tombé dedans.
Votre honneur, on est les lutins du lapin de Pâques.
J'ai une pensée pour ma belle-sœur Catherine en Belgique qui est en train de nous écouter via l'application.
Coucou Catherine,
bonjour.
Comment ça va Catherine?
Vous embêtez plus, je crois qu'elle a désinstallé l'appli.
Au revoir Catherine.
Pardon Catherine.
Bristol est-il un mytho?
Ce matin, nous allons parler du héros de Bondi Beach. Vous vous souvenez? C'est passé il y a quelques mois en Australie. L'un des terroristes avait été désarmé par un homme. Un monsieur qui tenait une petite supérette là juste à côté. Il a eu le courage d'intervenir et donc désarmer un de ses tireurs. Et depuis, il est considéré comme un héros national en Australie. Il y a même une cagnotte qui a été ouverte. Une cagnotte de remerciement avec 2,5 millions de dollars. C'est pas mal. Bref, et suite du coup à cet épisode, il avait été approché par plusieurs associations et clubs de self-défense. Bah, il a accepté de s'y mettre, il a fait sa première compétition et il a terminé dernier de cette compétition. Alors ça devait être du Krav Maga ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, self-défense, c'est un peu bizarre. Est-ce que je m'étonne ou pas avec cette histoire? Pour les auditeurs, je m'étonne à fond.
Ah.
Pour les auditeurs. Est-ce que je m'étonne pour vous, Déborah, Romano?
Ah, c'est difficile. Le mec, difficile de se prononcer.
C'est vrai que d'après mon histoire, ça veut dire que le gars, c'est un héros national parce qu'il a défendu limite tout un pays et il est intervenu auprès d'un terroriste. Par contre, en self-défense, il est nul. Déborah, Romano.
Ouais, mais s'il y a des règles précises dans la discipline, les connaître et savoir les appliquer, c'est différent que de gérer quand t'as un gros coup d'adrénaline comme il a dû avoir ce jour-là, quoi.
Oui, peut-être.
Donc, c'est possible.
Et donc?
Allez, moi je dis tu m'étonnes pas pour être un peu à contre-courant.
D'accord. Est-ce que je m'étonne pour les auditeurs?
Non,
pour
vrai,
toi? C'est vrai?
Ouais. Non, il est nul.
Donc pour
j'ai
vous.
J'ai vu son geste.
Pour vous, c'est.
Il est pas académique.
Mais ça rend son geste encore plus beau.
Pour les auditeurs, je m'étonne pour vous, je dis vrai. Oui. Eh bien, je m'étonne ce matin. Okay, mais c'est
super.
Complètement, bah alors, complètement faux. Hein.
Super.
Bah alors, rien à voir. Hein.
Super.
Je vous explique, en plus, il était baissé quand même dans l'intervention, donc il est encore convalescent. Hein.
Il a rien fait.
Mais si, par contre, je vous donne quand même des nouvelles du gars. Il a récupéré 2,5 millions de dollars avec cette cagnotte. Il était félicité par les chefs d'État du monde entier, d'accord? Eh bien, Ahmed, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, oui. Ahmed a décidé de rouvrir sa supérette cette semaine. Petite supérette, tabac et bibelot du côté de Bondi Beach. Et ben là, franchement, tout le monde est hyper content dans le quartier parce que ils étaient un peu en manque d'Ahmed. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a flambé ou quoi?
Il a absolument pas flambé. Ah. Non, je pense qu'il a mis ça sur un compte, un livret A.
Il a tout mis sur le rouge. Eh merde.
Non, mais il a évoqué un moment de refuser cet argent. Hein.
Alors
peut-être qu'il s'est ravisé, mais en tout cas, un moment, il a évoqué de le refus.
Je crois qu'il, enfin, c'est pas je crois, il a pris la, bah, il a pris la thune. Ouais. Mais malgré cette nouvelle fortune, il a décidé quand même de pas changer de vie et de rester dans sa supérette. Bravo, monsieur. Bravo,
bien,
Ahmed.
Par contre, les gars, il y a juste un truc, c'est que je ferme 6 mois dans l'année parce que je voyage.
Je me fais des petits kiffs.
Bah, tranquille. Il va peut-être embaucher.
Ouais, tu sais quoi, il a bien raison, Ahmed, de profiter. Et encore bravo à lui.
Réécoutez le 7-10 Alsace en replay. Podcast.
Nous sommes le 12 février et un objet qu'on utilise tous les jours, enfin surtout vous madame.
Oui, parce que nous un peu moins.
Ouais, qui a été breveté ce jour-là, un 12 février. En quelle année?
1914.
Ça remonte un petit peu quand même. Hein.
Marie Phelps Jacob, ça vous parle ça ou pas?
Non.
Je sais pas.
Eh ben sachez-le, elle a breveté le 12 février 1914 le soutien-gorge.
Ah oui, ouais. Ouais, c'est effectivement.
Vrai que,
pas mal, hein.
C'est vrai que nous, on est un peu moins là-dessus.
Nous, on est moins là-dessus.
Ouais, moins, ouais.
Quelques mois après, elle revend son brevet pour à peu près 25 000 euros à une entreprise spécialisée dans des corsets. Donc depuis 1914, les filles en portent et les hommes ne rentrent plus dans un magasin de lingerie.
Ah, on y va de temps en temps quand même, on accompagne madame.
Ouais, mais c'est pas notre univers.
Ah non, on se sent pas bien, on n'a pas les codes.
On n'a pas les codes,
on sait pas.
On accompagne parfois madame, on accompagne et tout, mais moi quand je rentre là-dedans, je suis gêné.
Tu sais même pas si t'as le droit de regarder vraiment. Tu vois ce que je veux dire?
Tu te promènes un peu en sifflotant, mais t'es pas à l'aise.
Ouais, c'est pas toi.
Déjà, ne siffle pas.
Ah ouais.
Parce que là, c'est très étrange. Bon,
Moi, je siffle pas, je sais pas siffler. Mais je vois ce que tu veux dire, Romano. Bien sûr.
Non, mais c'est. Pourquoi vous nous infligez ça?
Quelque
Comment
part.
Ça,
de nous dire, viens, il faut vite que j'aille voir des sous-vêtements.
Bah, si vous êtes avec votre compagne en plus, enfin pourquoi ce serait
après ça peut être un étrange. Petit moment un peu partage et dire bah tiens regarde machin etc, mais c'est vrai que nous ça nous gêne. À la limite le côté pyjama je le vis mieux. Côté pyjama, ça va, tu vois.
Bien sûr.
Mais lingerie je suis pas.
Et en plus t'as les vendeuses qui te regardent chelou. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être observé.
Mais c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a l'impression d'être jugé. On a l'impression que quand on regarde un soutif, on passe pour un gros pervers, etc. Alors qu'on conseille. Mais non, c'est pas le, ouais, c'est pas le moment où on est le plus à l'aise.
Mais t'as raison. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je vais genre rayon pyjama et je fais genre de chercher un pyjama. Alors que, mec, pas du tout. Pas du tout. Je m'en fous des pyjamas. Mais je fais
tu vois, ta nana, tu dis, regarde-moi ce pyjama. Il est vraiment canon.
Pas,
quoi,
mal, pas mal, hein. J'aime bien, moi, les pyjamas. Mesdames, les vendeuses.
Je suis là que pour ça d'ailleurs.
Tiens, c'est pas gênant, pas gênant.
Ah oui.
Je donne des situations, vous me dites si pour vous c'est gênant
allez,
ou pas.
Vas-y.
Dire vous aussi au serveur qui vous dit bon appétit, c'est gênant ou pas?
Ouais, c'est gênant et ça m'arrive tout le temps.
C'est marrant. Moi, je trouve ça plutôt marrant, ça va.
J'aime bien.
Vous aussi, c'est drôle.
C'est tromperie de prénom quand on parle à quelqu'un, gênant ou pas gênant?
Ça, c'est gênant.
C'est hyper gênant.
Ah ça, oui, c'est gênant.
Tu sais, t'as un prénom qui te vient et tu l'appelles autrement, tu fais.
Moi, la dernière fois, j'étais au téléphone, vous savez, avec les maisons de disques. Et voilà, les maisons de disques, ils t'appellent beaucoup, puis de temps en temps, tu dis, ok, tu vas décrocher, etc. Tu vois. Et le gars me parle d'un artiste qui s'appelait David, l'artiste, tu vois.
Ok.
J'ai fini toute la conversation en appelant le gars David. Alors qu'il s'appelait Jean-Christophe. Et donc, mais genre, David, longtemps, tu vois. Ah, et à la fin, il fait, par contre, moi, c'est Jean-Christophe. Hein, Je fais, ouais, non, mais parce que comme tu m'as parlé de David tout à l'heure, j'étais en gênance totale, laisse tomber.
Non, mais c'est chaud. Moi, Déborah, je l'appelle Marjorie parfois.
Ouais, c'est. Moi j'appelle Julien et c'est là où c'est plus emmerdant.
Non, c'est pas vrai. Lui c'est vrai, il m'appelle des fois Marjorie, des fois il cherche mon prénom aussi.
Oui, mais j'ai un problème.
T'as le syndrome du boss, t'as le syndrome d'Antoine.
Gars, mais c'est sûr. Et pourtant je suis encore jeune. Hein.
Ouais, attention.
Profitez-en tant que je connais vos prénoms. Est-ce que c'est gênant de se lever pour descendre du bus? En fait, tu te rends compte que c'est pas le bon arrêt. Donc tu vas te rasseoir.
Ah ouais, ça c'est. Ah oui, ça,
ouais,
ou
c'est
alors...
un peu gênant, moi je me rassieds pas du coup. Hein.
T'attends, tu fais genre.
Ouais.
Il y a un autre truc qui est gênant, un peu dans le même délire, c'est dans l'ascenseur. Tu demandes un étage, tu sais, vous êtes plusieurs dans l'ascenseur, tu demandes le 2 alors que toi t'es au 3. C'est toi qui as demandé le 2. Tout le monde a vu que t'avais demandé le 2. Le... Tu t'arrêtes au 2, t'es obligé de rester dedans.
Gars,
désolé, je.
Gars, c'était mon prochain 2.
Non, c'est vrai.
C'est
ultra gênant ça. Tu te trompes d'étage.
C'est horrible parce que tu sais plus quoi faire.
Bah ouais! Alors, du coup, tu t'excuses et tout. Alors que les gens, en vrai, ça va, c'est pas grave.
De toute façon, l'ascenseur, c'est un endroit gênant.
Oui, c'est vrai.
Parce que tu rentres dans l'ascenseur, tu te sens obligé de dire bonjour quand il y a quelqu'un et tu te parles pas. Et à la fin, quand tu sors, tu fais bonne journée.
Quand tu rentres dans un ascenseur, tu te sens obligé de siffloter et moi, je sais pas siffloter. Donc, du coup, je suis pas bien.
Non, tu t'as pas à discuter, tu dis bonjour, bonne journée. Tu connais pas la personne, mais tu te sens obligé de le faire.
Et voilà, bah ça fait partie des moments gênants auxquels on a droit tous les jours. Bon courage dans vos moments gênants.
Oui, on est là.
Voilà, on est là, comprend. On vous soutient. Vous êtes pas seul, hein.
Non, bah non.
Du tout.
Sachez-le.
L'info qui sert à rien, sauf faire le malin à la machine à café.
C'est parti, on fait le malin à la machine à café ce matin avec cette petite info et cette question existentielle. Quel est l'instrument de musique le plus vendu au monde? Vous êtes réveillé ce matin en Alsace avec cette question en tête. Je sais.
J'aime pas si les profs de musique, ils savent ça.
Moi, je sais pas. J'aurais tendance à dire la guitare.
Il existe 1500 instruments quand même répertoriés dans le monde. Hein. 4 grandes familles, cordes, vent, percussion, clavier électronique. Et d'après toi, c'est la guitare?
Ouais, j'ai l'impression que c'est la guitare. Parce que t'en as vraiment à tous les prix.
Déborah.
La flûte à bec, on nous oblige à rester à
l'école. La flûte à bec fort. Ah, j'ai zappé Zos, mais non.
Si on mesure la popularité, au nombre de pratiquants réguliers, la guitare, c'est la première place.
Ouais.
Mais popularité, ça rime pas forcément avec volume de vente. Ouais, parce qu'un piano. Un piano, tu joues du piano, ça s'achète une fois et tu joues du piano tout le temps avec le même piano.
Bien sûr.
Tu vois, une guitare d'entrée, bah, ça peut durer 10 ans.
Ouais.
Alors que l'harmonica.
Fort l'harmonica.
Les gars, c'est l'harmonica.
Hey, vous savez jouer de l'harmonica?
Bah non, pas
non.
Du tout.
Oh, quoi, tu sais toi?
Bah non.
Christophe Maé, il sait. Hein.
Et Christophe Maé, il gère. D'ailleurs, dans son nouveau morceau qui s'appelle La Lune qu'on joue hein, sur Fleur FM, il y a l'harmonica, c'est lui. Hein. Il est là, il gère.
Il sera là, hein, à la Foire au vin de Colmar.
Il sera là, à la Foire au vin.
Pas la date, mais vous allez voir. En tout cas, il sera. Hein.
C'est cet été, il n'y a pas de problème.
Bon, bah c'est l'harmonica, l'instrument le plus vendu au monde, inventé par un Allemand, Matthias Honer, en 1857. Il s'en est écoulé plus d'1 milliard d'exemplaires, toutes marques confondues. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
Format de poche, coût de fabrication réduit, une courbe d'apprentissage instantanée, bam, t'inspires, t'expires, t'as déjà de la musique. C'est aussi simple que ça.
Les Européens l'ont amené en Amérique. C'est grâce à nous que l'harmonica s'est imposée dans le blues, dans la country et encore dans la pop. Et en fait, les soldats leur portaient au front, les ouvriers dans leur voiture. C'était simple. Les enfants aussi l'amenaient dans les cours de récré. Et aujourd'hui encore, et ben, l'harmonica débute à moins de 10 euros. Tu peux même l'acheter maintenant sur Amazon, ce truc. Tu fais ça, il te manque 10 balles. Il te manque 7 balles pour avoir le truc offert et prendre l'harmonica.
Voilà. C'est énorme. Mais c'est un peu classe. Ça tient dans une poche. T'es là, tu sors, puis t'animes la soirée.
C'est stylé.
Ouais, c'est un peu coolos.
Par an, il y a une dizaine de millions d'harmonicas qui sont vendus dans le monde. Pas mal, hein.
Ouais, d'accord. C'est pas mal. Bah, ouais. Une amie de ma fille vient de s'en acheter, hein.
C'est pas vrai.
Ouais, elle voulait s'y mettre, elle voulait essayer, elle s'est acheté un harmonica.
C'est pas vrai.
J'ai trouvé ça fou, mais finalement, tu vois. C'est dans la tendance.
Et j'ai mon pote Nunziato aussi, hein, qui en joue aussi de temps en temps. Voilà,
j'adorerais jouer de l'harmonica.
C'est vrai.
Mais après, je capte pas.
Mais moi non plus.
Bah, petit tuto.
T'as petit tuto.
Tu fais un tuto. Bah, c'est pas comme ça que t'apprends la guitare en ce moment.
Ah, bah si, bah attends, je peux pas tout faire. Hein.
Vous écoutez le 7-10 Alsace en replay ou podcast.
Puis si vous cherchez un job en Alsace, c'est possible.
Oui.
Faites attention à vos réseaux sociaux.
Ah oui, parce qu'il y a une étude qui a été menée par Indeed qui a révélé que 62% des recruteurs ont déjà écarté un candidat à cause de son profil sur les réseaux. 62%, c'est énorme.
Ouais. C'est énorme. Ouais.
C'est énorme et quelque part, ça m'étonne pas trop. C'est pas cool, hein. Mais... Bah,
L'étude s'appelle « Les réseaux sociaux et leur impact sur le recrutement » menée auprès de 500 recruteurs français l'année dernière, en 2025. Ça vient de sortir. Selon cette étude, 80% des recruteurs consultent les réseaux du candidat lors du processus de recrutement. Notamment dans les entreprises qui ont ces entreprises de taille moyenne. 80%. Ouais. Les métiers du juridique, par exemple, affichent un taux de vérification de 100%. Tu veux devenir avocat ou quoi?
Ah oui,
c'est sûr. 100%, tu vas être vérifié. L'industrie manufacturière, 92%. L'architecture, 87%. Et la finance, 86%. C'est là où on vérifie le plus.
D'accord.
Qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Et bien déjà, comprendre votre personnalité et votre centre d'intérêt pour 40%.
D'accord.
Ils cherchent à cerner.
Donc si vous mettez des photos et des vidéos de curling, on est sur un fan de curling, on a compris. Est-ce que c'est compatible avec un avocat? Bon, on va voir.
Ils vérifient aussi vos expériences et qualifications. Genre par exemple sur LinkedIn, ils regardent si votre CV ça marche avec votre parcours que vous avez mis sur LinkedIn.
Ah oui.
Pas con.
Oui, bon là faut être cohérent, là c'est normal.
Ils détectent aussi les signaux de risque ou de comportement problématique. Et ça c'est important pour 20% parce que des fois sur les réseaux, tu te lâches un peu.
Il y a des fois où on balance, effectivement.
Tu t'énerves un peu, tu dis que c'est pas cool, tu dis ça, et tu peux être écarté parce qu'un jour t'as dit que la prof d'anglais de ta fille, était pas. Pas bossé, quoi.
Non, mais ça révèle un trait de personnalité, mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai.
Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà été licenciés, et je crois que c'était valable, un licenciement validé, parce qu'ils avaient critiqué l'entreprise sur réseaux sociaux. Hein, critiqué un collègue ou même un responsable.
D'ailleurs, pour 7% des recruteurs, ils évaluent aussi l'adéquation culturelle, les valeurs de l'entreprise, si ça va avec les valeurs du gars.
Ah oui, ça c'est important, ça.
Donc les recommandations, j'en ai 3.
Vas-y.
Très simple, faites le ménage. Supprimez ou masquez tous les contenus qui peuvent être mal interprétés.
D'accord.
Harmonisez vos informations. Faites en sorte que votre profil LinkedIn, c'est la même chose que ce qu'il y a sur votre CV. C'est logique, c'est du bon sens, mais bon, faut mieux préciser. Et enfin, gérez vos paramètres de confidentialité. Créez éventuellement un profil personnel où, genre, on peut pas trop forcément vous retrouver.
Voilà.
Ah ouais. Ah, changez un peu le nom, quoi. Vous mettez.
Change le nom, tu mets un code.
Bah ouais, et restez poli. Restez cool quand même sur les réseaux, tu vois. Ça aidera aussi.
À part si t'es en privé,
peu,
tu peux y aller.
Ouais, mais non.
Tu te fais anonyme, voilà. Enfin, tu te fais appeler Bertrand et c'est parti, quoi.
On aurait peut-être dû vérifier les réseaux de Romano avant
l'embauche. Cool sur les réseaux. On y va tranquille.
Et si vous cherchez du boulot, n'oubliez pas les offres d'emploi en Alsace dans le Haut-Rhin, 12h40, 13h40 avec Chris, hein, c'est sur Fleur FM.
Réécoutez le 7-10 Alsace en replay ou podcast.
Le maître du 7-10 Alsace.
Le maître du 7-10 Alsace.
Le maître du 7-10 Alsace, comme tous les jeudis, vous votez pour l'info préférée parmi les trois qu'on vous donne avec Déborah, avec Romano. Vous désignez ainsi le maître ou la maîtresse du 7-10 Alsace. On va démarrer avec l'info de Déborah, puisque c'est la maîtresse sortante. La semaine dernière, j'ai envie de dire encore une fois. Donc, on te laisse nous donner ton info, Déborah.
Et c'est une info qui m'a fait rire. Ah. Parce qu'il y a un député suisse. Bah ouais, okay. Franchement, je trouvais ça assez drôle. Un petit peu tristouné aussi quand même, hein, parce que ça montre des fois l'engagement de certains élus. En Suisse, dans le canton viticole de Vaud, il y a un député écologiste qui propose d'instaurer une nouvelle loi, une nouvelle règle. En fait, il veut imposer des tests d'alcoolémie à tous ses collègues au Parlement, parce qu'il s'est aperçu que parfois, avant certaines sessions, plusieurs élus étaient en état d'ébriété. Et au moment de voter, bah, ça ne collait pas toujours avec leur philosophie et leur parti politique. En fait, le problème, c'est qu'il y a une grande buvette qui est ouverte à l'entrée, qui est accessible à tous les élus, et ils passent un certain temps à cette buvette tous ensemble, nos députés. Ils exagèrent un petit peu, parfois ils lèvent trop souvent le coude, donc il veut instaurer des éthylotests à l'entrée et les obliger à avoir un taux d'alcoolémie en dessous des 0,5 g d'alcool par litre de sang pour avoir le droit de siéger, sinon hop, c'est dehors.
Sinon c'est dehors, évidemment. Une petite pensée pour Jean-Louis Bourleau qui a découvert l'alcool à ce bar d'ailleurs à l'époque.
On parle de la Suisse.
Deux verres je vête, plus je vote pas.
On parle de la Suisse, mais lui il a ramené le concept en France.
Mais tu rigoles, mais il y a en France la buvette aussi. Il y a eu des gros débats à cause de ça. Ils ont plus débattu avec la buvette qu'avec le budget.
C'est drôle.
Non mais c'est de la folie quand même.
C'est ouf.
Ça c'est l'info de Déborah. Romano, ton info.
Eh ben pile dans l'actu. Tu sais que je suis passionné de curling.
Oui.
On va parler curling.
Oui, une passion naissante.
On dirait pas comme ça, mais le curling c'est un vrai budget. Hein. Un vrai vrai budget. Pour jouer, il faut un set de pierres. Il en faut 16 pour être exact. Et 16 pierres de curling, ça coûte 12 800 €.
Oh là,
12 800 € les pierres de granit, c'est environ 800 € la pierre. Vous faites le calcul rapide, voilà, ça fait 800 x 16, 12 800. Évidemment, derrière ce prix fou, il y a une bonne raison.
D'accord.
Qu'on doit claquer une telle somme pour lancer des pierres sur de la glace. C'est qu'en fait, derrière la fabrication de ces pierres se cache une tradition vieille de plus de 175 ans. Le granit dont est fabriquée la pierre de curling des JO provient d'une seule et même petite île. Entre l'Irlande et l'Écosse, 3,2 km de circonférence, la Isle Sacraig. Et en fait, l'île aurait été formée il y a des millions d'années. Et c'est le refroidissement que le magma a formé avec ce granit qui est si particulier, qui recouvre aujourd'hui toute la surface de l'île. Donc, cette roche a pour vertu d'être imperméable, résistante à l'usure. Et en fait, il y a une seule entreprise qui a les droits exclusifs là-dessus. Et c'est eux qui décident de mettre les prix.
Non mais c'est une dinguerie.
Donc,
ça,
pour jouer,
c'est fou.
Pour jouer au curling, bah faut avoir un petit peu dans le portefeuille.
Ah quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais. Bon,
après,
bah,
ça te tient. Après, la pierre, elle s'use pas très vite, mais.
Ça te fait quelques saisons,
ça
quoi.
Ça te fait quelques saisons, bon. Ça te fait quelques JO. Bon, mais par contre, faut
mettre. C'est un investissement, quoi.
Faut s'investir au début, quoi.
Ah, bah,
quand tu commences à jouer au curling, tu sais pourquoi tu joues.
Merci pour ton info curling.
Et j'ai pas l'info balai.
Ça sera la semaine prochaine. Moi ce matin je voulais parler de James Van Der Beek. Vous savez qu'il nous a quitté. On l'a appris hier soir, hein, 48 ans soir. Des suites d'un cancer colorectal. Vous savez que c'était la star de Dawson, série culte. Au début des années 2000, l'histoire d'une bande de potes qui grandit ensemble, il y a des histoires d'amour, etc. La série a failli s'arrêter.
Attends. Bien joué, bien
dès
joué.
Dès le début.
Bien joué, il cherche l'affect là.
Allez.
Elle a capté quoi. Des trucs un peu middle. Attends, je vais chercher l'affect là.
On me critique et on fait pas.
Bien joué, bien joué. Il tente, il a raison.
Je peux finir l'info?
T'as raison,
vas-y. Vas-y.
La série a failli s'arrêter dès la première saison. Pourquoi? Parce que c'était pourri. Les audiences pourries de chez pourri. Et puis finalement. On a commencé effectivement à s'accrocher et surtout à parler de cette série. Alors non pas à cause des histoires, non pas à cause des acteurs, etc. Mais plutôt à cause de la fameuse crying face. C'est la tête que faisait Dawson quand il chialait. Il y a une scène culte où le gars, chiale. Mais ouais, c'est un peu,
il chiale mal.
Un peu, ouais.
Il chiale mal.
Et la scène est devenue tellement culte que du coup, il y a eu des inspirations, il y a eu des gifs, il y a eu des stickers. Il y a même eu des petites figurines qui ont été commercialisées partout dans le pays. Ça a commencé à cartonner. Et c'est notamment grâce à ça que la série, finalement, est devenue un peu iconique et est devenue un peu culte et que les audiences ont monté. Voilà, grâce à cette tête qu'il faisait quand il chialait, notre James Van Der Beek. Alias Dawson.
En fait, évidemment. C'est parce qu'il chialait mal que ça a marché, quoi.
Notamment.
Le 7-10 Alsace, en replay et podcast
sur fleurfm.com
ou l'appli Fleur FM.